Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi, Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes avec cette émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Bien, novembre semble maintenant être synonyme du mois de la sensibilisation à la santé des hommes. La semaine dernière, à travers cette émission, peut-être que vous vous rappelez, on apprenait que les facteurs qui déterminent qu'un homme soit motivé, que les hommes soient motivés à prendre soin de leur santé, sont l'humour, le fait de se sentir utile, et aussi de se sentir adéquat et compétent. Donc, en deuxième partie d'émission, je vous parle d'un projet qui semble rallier tous ces facteurs. Homme à tout, un atelier de travail ambulant par et pour les hommes. Et je le ferai avec Marc Saint-Pierre, lui qui est travailleur social du côté de Chicoutimi. Mais d'abord, les commotions cérébrales. Des statistiques un petit peu inquiétantes, des chercheurs canadiens qui estiment qu'il y a entre 200 000 et 300 000 commotions cérébrales annuellement. Si vous êtes comme moi, vous vous dites « mais il est où le 100 000 entre les deux? » Mes lectures m'ont amené à croire que c'est peut-être parce qu'il y a 80 % de ces commotions-là qui ne seraient pas diagnostiquées. On en parlera pour voir si ça a du sens, mon interprétation des choses. Bien sûr, les jeunes, les sportifs sont les plus grandes victimes. Environ 20 % de toutes les commotions cérébrales surviennent dans la pratique d'une activité sportive et les autres grands responsables, oui, sont les accidents de la route, les accidents dans le lieu de travail ou aussi des conséquences d'un acte criminel. Donc, comment on peut mieux connaître, mieux comprendre la commotion cérébrale? J'en parle dans quelques instants avec le docteur Pierre Frémont, lui qui est président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, également professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Bonjour, docteur Frémont.
Bonjour.
Ça se passe bien du côté de Québec?
Très bien.
Vous avez de la neige?
Des jours avec de la pluie, mais
ah, de la pluie. Bon. Lors de votre dernière participation à l'émission, on avait abordé ensemble davantage les recommandations pour éviter les commotions cérébrales chez les jeunes sportifs. J'avais envie de vous réinviter pour parler plus globalement de commotions cérébrales. Et j'aimerais ça commencer avec une citation qui, je trouve, illustre très, très bien ce que peut représenter une ou des commotions cérébrales. Une citation de l'ex-joueur des Alouettes de Montréal, Étienne Boulay, qui dit « C'est comme un CV, les commotions, ça te suit. Peu importe si tu changes de niveau, le compteur ne se remet pas à zéro. » Et j'avais envie de parler avec vous, Dr. Frémont, justement de ces impacts-là des commotions cérébrales, parce que une personne qui en a subi une est 5 fois plus à risque d'en faire une nouvelle. Donc, des commotions répétées, ça a des séquelles très, très graves sur le cerveau des gens.
Oui, effectivement. Par contre, ce genre d'analyse-là ou cette citation-là, mm-hmm. elle traduit probablement en bonne partie le fait que les commotions cérébrales sont mal identifiées mm-hmm. lorsqu'elles surviennent initialement et que les blessures qui sont identifiées sont en fait l'aggravation de premières blessures passées inaperçues dans une bonne proportion des cas. Et ce qu'on a encore espoir de pouvoir améliorer énormément, c'est l'identification des commotions cérébrales lors des tout premiers symptômes, au tout premier niveau de participation dans les sports, alors que elles peuvent très bien guérir si on retire les jeunes, on les protège suffisamment longtemps, puis qu'on applique des approches graduelles de retour à l'apprentissage puis au sport.
Mm-hmm. Bien sûr, c'est important de la faire, la nuance, parce que Étienne Boulay, lui, ex-joueur de football, a subi bon nombre de commotions cérébrales. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Est-ce que les séquelles, par exemple, qui sont imputées à des commotions cérébrales sont permanentes, Dr. Frémont?
Bien, la bonne nouvelle, c'est que, surtout pour les plus jeunes, là, ou les parents des plus jeunes qui sont inquiets de les voir s'impliquer dans des sports comme le hockey,
ouais.
C'est c'est que la grande majorité des commotions cérébrales bien identifiées vont bien guérir sans séquelles. C'est l'enchaînement des blessures auxquelles je faisais allusion tout à l'heure qui vraisemblablement se traduit par une fragilité établie, puis éventuellement même des séquelles qui peuvent être prolongées et plus rarement permanentes.
On parle de bien identifier la commotion cérébrale. On fait comment? Parlons-en.
Ça se fait avec une très haute technologie, l'éducation. Donc, il faut vraiment, vraiment passer plus de temps en réunion de début d'année avec nos équipes de sport, de basketball, de hockey, pour apprendre aux jeunes, apprendre à leurs parents, et les entraîneurs, évidemment, chez qui ça devrait déjà être bien fait, quelles sont les manifestations d'une commotion cérébrale qui sont extrêmement variées, peu spécifiques, le mal de tête, la nausée, l'émotivité, des problèmes de mémoire, de confusion, et j'en passe. Mais c'est des choses qu'il faut savoir rechercher. Lorsqu'un jeune a un bon contact, un coup à la tête ou un coup au corps qui l'ébranle, il ne faut pas que l'entraîneur cherche son guerrier le plus rapidement possible. Il faut qu'il questionne son jeune à savoir s'il a des symptômes de commotion cérébrale.
C'est-à-dire, les questions pourraient être « As-tu mal à la tête? » C'est ce genre de questions-là qu'on pose?
Voilà. Te sens-tu bien? Te sens-tu ébranlé? Es-tu étourdi? As-tu mal à la tête? Et de rechercher un jeune qui nous regarde droit dans les yeux, qui dit « Non, je n'ai rien de tout ça. Ça va bien. C'était rien qu'un bon coup à l'épaule ou j'ai perdu le souffle. » Et non, je n'ai aucun de ces symptômes-là. Mais il faut les rechercher.
Mm-hmm.
Si le jeune sent qu'il est attendu sur le jeu à tout prix parce que c'est un des bons joueurs de l'équipe et qui c'est la réponse que veut avoir l'entraîneur, qui n'est pas du tout à la recherche d'éventuels symptômes, mais le jeune va dire « OK, je suis prêt », malgré son début de mal de tête.
On parle des entraîneurs, on parle également de l'équipe scolaire, l'équipe école, mais il y a les parents aussi qui doivent être sensibilisés parce que parfois les symptômes se manifestent plus tard. Ça peut prendre 48 heures, Dr. Frémont.
Tout à fait. D'abord, premièrement, des fois, les symptômes ne sont pas identifiés et effectivement, ils peuvent apparaître dans l'autobus sur le retour du tournoi. Et c'est le parent qui devrait avoir reçu l'information pour se rendre compte que son jeune n'est pas tout à fait lui-même. Il est soit un peu somnolent, un peu dans la lune, un léger mal de tête, etc.
En préparation de cette émission, j'ai parlé à des gens qui ont subi des commotions cérébrales, pas nécessairement dans le sport, mais justement, comme je le disais d'entrée de jeu, suite à un accident de voiture ou de travail. Et selon eux, il y avait également un changement dans leur santé mentale, c'est-à-dire beaucoup plus d'émotivité, on en a parlé, mais également des phobies, avoir peur davantage, avoir des flashbacks également de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a réellement des impacts sur la santé plus mentale de la personne touchée?
Ça peut arriver. C'est pas l'évolution typique d'une commotion bien gérée. Par contre, ce qu'on voit beaucoup chez les adultes, c'est que le problème est... Ils se font dire « Ah, oh, vous avez seulement une petite commotion cérébrale, vous retournerez au travail lundi, prenez ça tranquille demain. » Mais ils devraient avoir un respect de l'organe blessé qui est le cerveau. Et tant que ces gens-là, adultes, travailleurs, qui ont des symptômes, difficultés de concentration, un mal de tête qui apparaît après une heure de travail, c'est des signes qu'il faudrait reconnaître que le cerveau n'est pas guéri et il faut le laisser se reposer. Alors, les gens prolongent leurs symptômes, et ça a été bien démontré, s'ils ne respectent pas une période de repos nécessaire avant de retourner se servir de leur cerveau.
C'est quoi cette période-là nécessaire? Bon, c'est variable, j'imagine, chez chaque personne, mais...
Effectivement, c'est variable, et ce qui est recommandé, c'est d'attendre la disparition des symptômes en étant tranquille. Ça, c'est le minimum. Et après ça, d'essayer de s'aménager du temps pour stresser le cerveau de façon progressive, comme on a appris à le faire avec l'effort physique. Mm-hmm. Mais maintenant, ce qui est un peu mieux fait et qui devrait être de mieux en mieux fait, c'est de stresser graduellement le cerveau. Donc, faire des courtes périodes de stimulation cognitive, de lecture, et de voir comment le cerveau réagit avant de se lancer dans une semaine de travail à un rythme imposé par un employeur.
Bon, période de repos obligatoire, mais il y a également d'autres recommandations à observer. Je le disais, éviter l'alcool, éviter de trop travailler devant un ordinateur également.
Oui, le travailler à l'ordinateur, c'est une stimulation cognitive, surtout si on parle de jeux vidéo chez les jeunes. C'est très, très stimulant, c'est demandant. Ils font une analyse continuelle de toutes sortes d'informations combinées. Et c'est pas pour rien que ça crée chez les jeunes qui n'ont pas de commotion, ils ont des problèmes de sommeil, ils sont tellement stimulés que ça leur prend du temps à arriver à dormir. Alors, ça traduit le stress sur le cerveau, l'état d'excitation du cerveau, et ça, c'est pas bon en période de commotion.
Et l'alcool également. Autre chose, le bruit, autre chose à observer?
Ben, en fait, oui, c'est toutes des stimulations. La lumière, le bruit peuvent augmenter les symptômes. Et quand c'est le cas, ben, il faut les éviter.
Mm-hmm. Je reviens à ce qu'on abordait tout à l'heure, au début de notre conversation, à savoir que quelqu'un qui a subi une commotion cérébrale est cinq fois plus à risque d'en faire une nouvelle. Pourquoi donc ça arrive, ça?
D'abord, c'est possiblement et probablement un peu le fait que le cerveau est fragilisé. Mm-hmm. Mais on peut avoir espoir aussi que c'est en bonne partie dû au fait que les épisodes sont mal identifiés, qu'ils s'enchaînent au début. Mm-hmm. Et lorsqu'on a enchaîné quelques épisodes, là, on a une fragilité établie. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on devient très bon comme société à identifier précocement les commotions alors qu'elles sont très simples, peut-être qu'on va voir beaucoup moins cet effet de fragilisation.
Et bien sûr, on en parle de plus en plus parce que, et ça, on en parlait lors de notre première discussion il y a de ça quelques semaines, parce qu'il y a des grands sportifs, Sidney Crosby, Étienne Boulay en est un également, qui ont été touchés par les commotions cérébrales. Ça a affecté leur façon de travailler, leur travail directement. Le grand public a été interpellé par ça. Et là, on a pu commencer de plus en plus à faire ce dont vous parlez, la grande technologie de l'éducation, pour en parler au grand public. Mais une question qui s'adresse à vos collègues, est-ce que les médecins de famille, là, notamment, sont sensibilisés à ça quand ils voient quelqu'un arriver au bureau avec peut-être une commotion cérébrale, capable de dire, je vais t'arrêter X temps, je reconnais ça?
Récemment, on s'est posé exactement cette question-là dans une étude à laquelle j'ai collaboré, et on a démontré que par des questionnaires auprès des médecins de salle d'urgence, auprès des pédiatres impliqués en première ligne chez les jeunes et auprès des médecins de famille, que la proportion qui était de ces personnes-là, qui se disaient bien familières avec les normes de pratique concernant les commotions cérébrales, est encore très sous-optimale. Donc, il y a encore une bonne proportion de ces intervenants-là de première ligne qui n'est pas bien au fait, bien préparé à donner des bons conseils. Et c'est pour ça qu'il faut leur fournir les bons outils, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire à la collaboration canadienne. Mm-hmm. C'était un objectif sur lequel on a travaillé un bon moment et sur lequel on va continuer de travailler, c'est-à-dire la formation des professionnels de la santé, développement d'outils pour les aider, même s'ils n'ont pas tout dans leur mémoire vive, s'ils ont accès facilement à un outil pour donner les bons conseils. Ça facilite beaucoup les choses.
Oui, tout à fait. Puis après, pour pouvoir divulguer ces informations-là aux gens qui sont vraiment soit sur les terrains de football, dans les arénas, dans les écoles, bien sûr. Autre chose qui était assez consternante quand je lisais sur les commotions cérébrales, c'est tout le lien avec le vieillissement du cerveau sur le fait d'avoir eu plusieurs, bien sûr, là, on parle de gens qui ont été touchés plusieurs fois par les commotions cérébrales, les probabilités de développer des maladies neurodégénératives, comme maladie d'Alzheimer, par exemple, ça pourrait augmenter le risque. Est-ce que c'est vrai, ça, Dr. Frémont?
Bien, en fait, l'entité dont on soupçonne très fortement le lien avec les traumatismes répétés à la tête, elle s'appelle l'encéphalopathie chronique traumatique. Mm-hmm. Et c'est une entité qui, lorsqu'on analyse les tissus, là, la neuroanatomie, la neuropathologie, c'est une entité qui est distincte, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la maladie d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique, les différentes maladies neurodégénératives. Donc, c'est une maladie qui a ses propres caractéristiques. C'est pour ça qu'on est en mesure qu'on croit de plus en plus que c'est en lien avec les blessures répétées à la tête. Mais encore là, il faut comprendre que c'est en lien avec des très lourdes histoires de traumatisme à la tête. C'est en lien avec des retours prématurés, l'enchaînement de traumatismes. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui menace les jeunes qui vont subir une, deux, trois commotions bien gérées, donc qui ne s'enchaînent pas les unes sur les autres dans une carrière de sport.
Oui, oui. Et dans une carrière de sport, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que les jeunes sont sur les terrains de jeu, sont sur les glaces, sont sur les terrains de football. En terminant, c'était l'une de mes questions, on ne l'a pas nécessairement abordée, mais je reviens justement à l'impact de la commotion cérébrale sur les enfants. Bon, j'imagine que si c'est bien guéri, si le rétablissement se fait de façon adéquate, les impacts ne sont pas tant là sur leur développement, mais si c'est mal géré, il y a un impact sur l'enfant qui grandit?
Ben oui, effectivement. Le jeune qui a une commotion qui s'avère compliquée, qui donne des séquelles sur plusieurs semaines, ben, il va avoir des cassures de performance scolaire. Et bon, en général, on voit une éventuelle résolution de ces choses-là et sur un parcours scolaire. C'est très exceptionnel que ça a des conséquences à long terme, mais il faut à tout prix éviter ça.
Oui. Vous vous faites toujours rassurant, Dr. Pierre Frémont. J'imagine que c'est parce que vous êtes encouragé de ce qui se passe en ce moment, de ce que vous voyez ou entendez autour de vous.
Oui, parce qu'on sent le changement de culture depuis certains événements médiatiques qui ont mis en évidence les commotions cérébrales. On sent une volonté, malgré des ressources parfois limitées là, dans le monde sportif, des niveaux de participation là, civils, provinciaux, etc. On sent une grosse volonté de recevoir la bonne information, de la transmettre, de mettre en place les bonnes façons de faire. Et ça, c'est très encourageant. Là, on travaille avec les gens actuellement. On travaille pas... Il y a encore quelques esprits résistants avec des cultures de guerriers, là, mais je dirais que j'ai confiance que c'est une espèce en voie de disparition. Là.
Oui. Docteur Pierre Frémont, vous êtes le président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Merci beaucoup. Bon week-end.
Ça fait plaisir, vous aussi.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, /M.
Bonjour, Marc Saint-Pierre.
Oui, bonjour, Mme Paquette.
Est-ce qu'il fait beau à Chicoutimi?
Est-ce qu'il fait beau? Il fait gris, mais on n'a pas de pluie, pas de neige, donc on va se contenter de ça, je
crois. Pas pour le moment, du moins. Par le défi de l'innovation, oui, pour la santé et le bien-être des hommes, la Fondation Movember voulait récompenser, il y a de ça quelques semaines, des initiatives qui ont fait preuve de créativité, qui ont été également très novatrices pour aider les hommes à prendre mieux soin de leur santé. Il y a 15 projets qui ont été retenus partout au Canada. Un seul au Québec, Marc Saint-Pierre, et c'est le vôtre, celui également de votre collègue Dominique Bizeau, un projet qui s'intitule « Homme à tout », un atelier de travail ambulant par et pour les hommes, un lieu de socialisation pour les hommes. J'imagine que ça a été développé et créé justement pour tenter d'aller intéresser les gens de la Fondation Movember, « Homme à tout ». Où ça se tricotait avant?
Alors, ça se tricotait un petit peu avant. Ça a été vraiment une belle occasion, je vous dirais, une belle opportunité de voir que Movember offrait la chance justement d'inscrire des projets de cette nature-là cette année. Là, dans le fond, le contexte dans lequel ça a été développé, là, le projet Omatou, c'est un constat qu'on a fait en tant que tel. Moi, j'ai travaillé dans la dernière année à la municipalité de la ville de Saguenay comme agent de projet pour le vieillissement de la population. Et c'est un constat qu'on a fait avec le Conseil des aînés de la ville et avec Dominique Bizot, par exemple, qui travaille sur le comité de travail aussi pour les aînés, que justement, au niveau des hommes, souvent, il y avait des opportunités manquantes pour les impliquer dans la vie sociale, justement, de la communauté, de les rendre utiles. On a vu qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Et on réfléchissait justement à comment on pourrait répondre à ce besoin-là. Et nous, on a vu justement qu'en Australie, par exemple, il y a un mouvement qui... On en parlera peut-être tout à l'heure.
Mais parlons-en maintenant. Men's Shed, oui. C'est ça?
Men's Shed, exactement. C'est une initiative qui est née, je ne me trompe pas, en 2007 en Australie, qui permet justement à des hommes aînés de travailler dans un atelier de travail convivial, souvent qui est un atelier qui est de quartier, si on veut, de proximité. Et dans ces ateliers de travail-là, on peut voir des hommes qui s'impliquent auprès de la communauté, qui vont faire des ateliers de bricolage, qui vont faire de la menuiserie, qui pourraient même réparer, par exemple, une tondeuse d'un voisin. Donc, c'est des hommes qui s'impliquent auprès de leur communauté, mais aussi qui font parfois du mentorat avec des jeunes pour transmettre justement leur savoir à des plus jeunes. Donc, on s'est un peu inspiré de ce concept-là, mais un concept aussi qui est basé sur le fait que les hommes ne socialisent pas nécessairement de la même façon que les femmes. Mm-hmm. Donc, on parle, dans le concept des men's sheds, ils parlent de shoulder to shoulder, donc d'épaule à épaule. Les hommes, quand ils vont parler de leurs émotions, quand ils vont socialiser, communiquer avec les autres, souvent, ça se fait mieux à travers une activité, donc par l'action.
Uh-huh.
Donc, côte à côte. Donc, par exemple, en bricolant avec un jeune ou avec un autre homme aîné, les hommes sont plus à l'aise, si on veut, justement, de parler de certaines choses que si on serait face à face à essayer de communiquer nos émotions.
Mm-hmm. Donc, ça répondait à ce besoin-là de créer un dialogue entre les hommes. Est-ce que ça vise que les hommes plus âgés ou également les jeunes hommes, Marcel?
Je vous dirais que de la manière que le projet est réfléchi, on parle beaucoup de permettre aux hommes, comme vous parlez justement dans votre introduction tout à l'heure de votre émission, que les hommes puissent se rendre utiles. C'est un aspect positif justement de la masculinité, que justement qu'ils puissent se rendre utiles à la communauté, mais aux autres. Donc, dans ce concept-là de rendre utile, on peut pas être utile tout seul. Hein? Et on est comme en rapport avec autrui, avec quelqu'un d'autre. Donc, dans ce sens-là, ben le projet d'Omatou permettrait aux hommes justement de se rendre utiles à la communauté, mais aussi, par exemple, on est dans un contexte de vieillissement de la population, on se le cachera pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais par exemple, les femmes vieillissent souvent seules. 3 femmes sur 5 vieillissent seules. Et il y a des femmes qui pourraient peut-être avoir besoin de services à la maison, que ce soit... moi, je prends par exemple, justement, quand je parlais du Conseil des aînés tout à l'heure, il y a un homme sur ce conseil-là qui manifestait qu'il a peinturé toute sa vie. C'était son métier de peinturer. Mm-hmm. Et il s'est rendu compte que, ben moi, j'aimerais, depuis que je suis à la retraite, je ne peinture plus. Pourtant, j'aimerais bien le faire. Et tout juste à côté, il y avait une dame qui disait, ben moi, j'aimerais bien que quelqu'un vienne chez nous pour peinturer mon appartement. Je suis plus capable de faire ce genre de choses-là.
Mm-hmm.
Donc, on peut aussi de mettre en communication les besoins de l'un et de l'autre. Donc, on peut penser justement, oui, aux femmes aînées, mais aussi à des personnes en situation de pauvreté ou d'isolement qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de se payer des services professionnels, que ce soit de la plomberie ou autre chose. Donc, le projet pourrait permettre ça aussi, justement, de rendre service à la communauté, mais à coût moindre ou même gratuitement, de voir comment on peut rendre ça un peu convivial pour tout le monde, si on veut que ce soit profitable pour tout le monde.
Et moi, ce que j'entends, Marc-Saint-Pierre, en vous écoutant, c'est que ça crée également un réseau pour contrer l'isolement des personnes peut-être plus âgées et l'isolement en région également.
Tout à fait. C'est sûr qu'ici, là, en région, à Saguenay, on vit une situation de ruralité et d'urbanité en même temps.
Ouais, ouais.
Donc, on a des communautés qui sont un peu plus en périphérie, qui sont isolées, puis on ne se le cachera pas ces temps-ci. Les temps sont plus durs dans certaines communautés. Des fois, on voit des services de proximité qui doivent fermer pour certaines raisons. Donc, il y a tout ce concept de proximité-là aussi qui est à valoriser dans le cadre du vieillissement de la population aussi pour pouvoir rendre service à une population, rendre accessible ces services-là. Donc, le projet vient aussi répondre à ce besoin-là, certainement, justement, dans les communautés en périphérie. Puis l'idée de l'atelier ambulant, là, de là aussi, justement, le concept innovant du projet, c'est sûr qu'en Australie, dans les autres pays d'Europe où ils ont des man-sheds, souvent, c'est des ateliers qui sont fixes, hein, qui sont dans un quartier, qui sont dans une communauté et qui restent là. Mm-hmm. Et nous, la manière qu'on l'a réfléchi, c'est de voir comment on peut le rendre mobile, ce projet-là, comment on peut déplacer des hommes dans certaines communautés et de les mettre en contact avec d'autres hommes aussi qui vivent d'autres situations plus particulières dans leur communauté. Donc, l'idée, justement, ben c'est de pouvoir créer... c'est un beau défi, hein, Mme Paquette, là, on ne se le cachera pas, j'ai bien hâte de m'embarquer là-dedans, mais l'idée, c'est de transformer un conteneur maritime de 40 pieds en atelier de travail ambulant. Okay. Donc, avec les hommes, que ce soit un lieu d'appartenance qui leur ressemble, un lieu justement qui auront monté ensemble, qui seront à leur image. Donc, je pense que c'est quelque chose qui manque aussi en ce moment là, dans la communauté, c'est des lieux d'appartenance pour les hommes qui leur ressemblent, qui ne leur sont pas nécessairement imposés.
Et donc, si c'est mobile, ça se promène de ville en ville. Donc, Chicoutimi, Saguenay...
Saguenay, on peut penser à Sainte-Rose-du-Nord, on peut penser aussi autour du lac Saint-Jean dans les petites municipalités, mais on peut penser aussi à certains quartiers, certains secteurs qui sont peut-être plus défavorisés, qu'on pourrait se promener. Mm-hmm. C'est sûr que le défi aussi, ça sera de voir à quelle place on peut s'installer. On ne va pas s'installer comme bon nous semble n'importe où. Ouais. Donc, l'important des partenariats vont être importants à ce moment-là. C'est sûr qu'à travers, justement, le concept de municipalité amie des aînés, dont la ville de Saguenay fait partie depuis 2012, on crée beaucoup de partenaires, que ce soit avec les clubs d'âge d'or, avec la FADOC, avec les centres d'action bénévole. Donc, ça va être important de se lier avec eux aussi, justement, pour aussi être au courant des besoins des différentes municipalités. Donc, c'est par exemple que à Sainte-Rose-du-Nord, il y a des personnes qui ont besoin de tel ou tel autre service, c'est d'être capable aussi de lier les besoins des communautés aux aptitudes des hommes qui vont s'impliquer aussi dans Matou. Mm-hmm. Donc, être capable justement de faire ce lien-là aussi.
Donc, les gens qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés à joindre Matou pourront peut-être mettre le nez là, dans les activités qu'offrent ces regroupements-là. On parlait de la FADOC, tout ça, pour vous joindre rapidement. À quel moment ça sera mis en action, Matou, Marc-Saint-Pierre?
Présentement, on est en mode préparation, je vous avouerais. Là, après l'hiver, autour de janvier-février, on va vraiment commencer la phase de mobilisation, mm-hmm. de recrutement et aussi de construction, justement, du conteneur. Et l'idée, c'est oui, justement, ils peuvent s'impliquer à travers les différents partenaires comme la FADOC et tout, mais aussi on rendra disponible aussi à ce moment-là un numéro de téléphone pour nous joindre directement, là, une fois que ce sera un peu plus concrétisé.
Tenez-nous au courant, Marc-Saint-Pierre. Oui, tenez-nous au courant, on suivra ça de près. Très certainement, ça va être parfait pour le déneigement des cours, des entrées de maison. Marc-Saint-Pierre, vous êtes travailleur social. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet Homme à tout. Ça a été un plaisir.
Bien, merci pour l'opportunité, madame.
Au revoir.
Merci, bonne journée.
Eh bien, c'est la fin de C'est bon pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été là au cours de la semaine. C'était Kamal Salifou à la mise en onde. Merci beaucoup, Kamal. Bon succès parce que tu nous quittes. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi. Dans notre cas, on est en rediffusion à 17h. Vous pouvez également nous joindre par Facebook, Twitter, par téléphone, courriel. Un plaisir de vous lire, de vous entendre. Je vous embrasse. Bye-bye. Bon week-end. À lundi.